France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La première métamorphose révolutionnaire, c'est la poésie. La possibilité de changer les noms de toutes les choses, y compris les noms propres. La deuxième et la plus profonde des métamorphoses, c'est l'amour. Dans une lettre film aussi intime que collective, le philosophe et réalisateur Paul B. Preciado s'adresse à Virginia Woolf pour lui parler de son roman Orlando, qui peut aussi se lire comme une lettre d'amour. Dans ce film, il est question de littérature, d'invention de soi, de fréquentation des morts et de fabrique des images. C'est visible sur la plateforme Arte et Paul B. Preciado est notre invité ce jour. Vers 15h50, comme chaque mercredi, nous avons rendez-vous avec Mathilde Wagman. Elle nous parle aujourd'hui de l'absurde en littérature jeunesse ou comment Beckett entre dans l'album. Et en fin d'émission, on se retrouve pour jouer au grand jeu des pages musicales. Et voilà, vous avez le programme. On est ensemble pour une heure. Ouvrez les livres. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Paul B. Preciado.
Bonjour.
Votre film Orlando, ma biographie politique, est diffusé ce soir à 23h sur Arte, en partenariat avec France Culture. On peut aussi le voir à tout moment sur la plateforme d'Arte. Et je pense qu'il va sortir au cinéma plus tard.
Ouais, le 5 juin.
Le 5 juin 2024. On va parler de tout ça dans un second temps de l'émission. Et puisqu'il est dit qu'Orlando est touché par le mal de la littérature, que par ailleurs on le voit errer et lire des livres tout le temps, ça tombe parfaitement bien parce qu'ici on commence toutes nos émissions par imaginer que nos invités sont d'abord des êtres qui ont été en contact avec des livres à un moment donné, ou peut-être que des livres leur ont manqué, ou peut-être qu'ils ont arrêté de lire, repris, etc., etc. C'est notre portrait de lecteur. Est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire?
J'étais un enfant en difficulté. C'est ce que les gens disaient autour de moi quand j'étais enfant. C'est quelque chose dont je ne parle pas souvent, mais en fait, bon, vous me posez cette question comme ça. J'étais diagnostiqué autiste quand j'étais enfant. Et du coup, soi-disant, j'avais pas appris à lire jusqu'à très tard, alors qu'en réalité, je lisais, mais uniquement ce que je voulais lire et à ma manière.
J'allais en fait exactement vous poser la question, est-ce que vous vous sentiez en difficulté?
Moi, je me sentais surtout surveillé, peut-être en fait, souvent à l'écart, mais très vite, en fait, la lecture est devenue un refuge pour moi. Et donc, effectivement, mes maîtres d'école, en fait, ma maîtresse d'école pensait que j'étais un enfant qui ne lisait pas. Jusqu'au jour, en fait, où elle a découvert que j'avais, en fait, un livre de biologie que j'ai traîné avec moi et que je faisais des dessins dans ces livres, que j'ai recopié des passages. Donc, effectivement, je me suis passionné quand j'étais enfant par la biologie d'abord, par la science, par la discours scientifique, beaucoup plus que par la littérature, par exemple, en fait. Et je suis arrivé à la littérature beaucoup plus tard. Même, je dirais, en fait, que je suis d'abord tombé amoureux de la philosophie. J'avais beaucoup de mal à lire des livres de littérature quand j'étais enfant. Je prenais des notes à côté, j'ai noté les noms des personnages, ça m'arrive encore de le faire.
Ouais.
C'est-à-dire de faire des cartographies. Et je me dis, non, ce personnage, il est pas bien décrit, en fait, il est pas passé par là et tout. Donc, faire vraiment comme une étude, en fait, parallèle à la lecture du livre. Et donc, du coup, j'ai pris très très longtemps à rentrer vraiment dans la littérature.
Est-ce que vous avez eu un passage par le livre des images, par les albums jeunesse, les livres à destination des enfants?
Non, sauf, enfin, je suis né dans une famille très catholique. Et donc, effectivement, on étudiait vraiment la Bible avec des supports pour les enfants, des images. Donc, effectivement, mais ça, tout ça, pour moi, était de l'ordre de voyage. Parce qu'en fait, les images étaient souvent, en fait, celles des Galilée, celles des déserts, etc. Donc, pour moi, plutôt, enfin, j'imaginais que Dieu, pour le coup, en fait, était vraiment un être du dessert. Et vraiment, enfin, il y avait les chameaux, il y avait Dieu. Et pour moi, c'était un peu la même chose, en fait.
À partir de quand vous voyez Paul B. Preciado en train de lire aisément un livre?
Après, je suis devenu vraiment passionné de lecture, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que je saurais pas vous dire, mais peut-être 10 ans.
Ah oui, donc tôt, finalement.
Ouais, tôt, c'est ça, en fait. Mais je lisais pas à l'école, en fait. J'aimais pas ça, en fait. Par contre, j'avais mes livres à moi. Ma maison était une maison. Mon père avait un garage. Et donc, c'était une maison dans laquelle il n'y avait pas du tout des livres, en fait. Mon père considérait qu'un livre, c'était vraiment quelque chose d'inutile et que ça faisait perdre du temps, en fait. Donc, il n'y avait pas des livres. Je ne pouvais pas lire des livres qu'il y avait chez moi.
Et vous les trouviez où ?
Justement, bah, je l'ai trouvé, en fait, chez des copains et des copines, en fait, j'ai demandé, mais je me retrouvais avec des livres qui étaient absolument pas des livres pour enfants. Et d'ailleurs, c'est comme ça, en fait, je pense que je suis arrivé à la philosophie. Mmh. Parce que je pense que les premiers livres que j'ai vraiment lus dans ma vie, en fait, étaient Aurore. Ce qui est quand même, c'est incroyable pour un enfant, des Nietzsche. Et ça m'a vraiment...
Mais enfant
10, 11
ans. C'est-à-dire 10, 12.
Ouais. Et je l'ai lu, en fait, mais je l'ai lu en continuité avec les écrits religieux. Et comment, en fait, Nietzsche est très critique de la religion. Si vous voulez, en fait, pour moi, ça me parlait de quelque chose, en fait, que je connaissais d'avance. Et du coup, j'ai pas pensé, en fait, que c'était quelque chose de philosophique ou de difficile. Non, par contre, en fait, effectivement, j'ai eu ma première crise religieuse, en fait, quand j'avais 10 ans, à cause de Nietzsche, en fait. Et je pense que très rapidement, en fait, j'ai compris que la philosophie, enfin, que quelque chose qui s'appelait philosophie, mais blessé particulièrement aussi par l'écriture et dans l'écriture.
Vous avez continué ce chemin-là ? Vous avez continué à lire de la philosophie ?
Ouais, totalement. Par contre, j'ai tardé à lire de la littérature. En fait, je pense que les premiers livres de littérature que j'ai lu entièrement, après on va parler d'Orlando peut-être en fait, mais Orlando je l'ai lu à l'école, mais c'était Gabriel García Márquez. 100 ans de solitude. En fait. Je pense que c'est les premiers livres en fait que j'ai lus et que je l'ai lu vraiment comme une enquête philosophique aussi sur les esprits en fait, quelque chose comme ça.
Justement, cette idée du réalisme magique, la manière dont ce livre scintille. Exactement. De quelque chose qui n'est pas, on va dire, collé au réel.
Exactement.
Ça vous a attrapé?
Ouais, ça m'a parlé tout de suite en fait. Hein, ouais. Et aussi, ça m'a fasciné le fait que c'était un livre en fait qui était aussi gros que la Bible.
Ouais,
en fait.
C'est très gros. Hein,
que c'était vraiment quelque chose qu'on avait l'impression que c'était comme un territoire, comme un paysage dans lequel on pouvait rentrer et se perdre en fait. Hein. Et du coup, voilà, j'avais ces livres en fait. C'est les premiers livres de littérature que j'ai lus.
Est-ce qu'il y a eu d'autres virages importants tant du côté de la littérature que de la philosophie dans votre vie de lecteur? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu l'impression de bifurquer, de changer de territoire, justement ?
En fait, peut-être parce qu'en fait, j'ai fait mes études de philosophie dans une université catholique en Espagne, et des jésuites. Et donc, du coup, effectivement, on s'est arrêté. Heidegger était déjà, en fait, la limite de la transgression. C'était quelque chose, vraiment. Donc, on s'est arrêté vraiment là. Et du coup, en fait, j'ai lu énormément de philosophie médiévale, par exemple, en fait, à une époque. Mais je l'ai lu vraiment avec la passion avec laquelle on peut lire vraiment de la philosophie contemporaine. C'est-à-dire que je suis un lecteur dyschronique. Vous voyez ce que je veux dire?
Pas d'ordre, oui.
Je suis pas, voilà, je suis pas dans l'ordre, je lis pas quelque chose, en fait, qui est contemporain, ou qui est à la mode, ou quelque chose comme ça. Ça m'est toujours arrivé, en fait. Et donc, du coup, souvent, je m'ai retrouvé, en fait, à côté de la plaque, parce qu'en fait, les gens lycées, c'était le moment, par exemple, les débuts de la postmodernité, soi-disant. Alors que moi, j'étais passionné de la philosophie médiévale. Mais je pense qu'après, effectivement, pour moi, ce qui a vraiment changé ma vie, je pense, c'était la rencontre avec les écrits féministes, philosophiques féministes, en fait.
Et ça arrive à quel moment dans votre vie de lecteur ?
Ça arrive, en fait, quand j'ai 20 ans, en fait. À peu près 20 ans. C'est après, à 22 ans, quelque chose comme ça, je vais partir aux États-Unis. Et il y a aussi la question des langues, qui est très importante, en fait, dans ma vie.
Dont vous parlez dans certains de vos textes. Vous dites, j'ai eu besoin de changer de pays, de langue, pour avoir accès à certains pans de la bibliothèque et de la littérature auxquels je n'aurais pas eu accès si je n'avais pas bougé, si je ne m'étais pas déplacé.
Absolument. Ouais, pour moi, l'apprentissage des langues, en fait, les langues, c'est vraiment des chemins d'émancipation. C'est comme ça que je le vois. En fait, c'est des grands lieux de liberté pour moi. En fait, c'est traverser des langues, en fait.
Mais à chaque fois que vous appreniez une nouvelle langue, il y avait quelque chose de la littérature de cette langue-là qui vous était ouvert nouvellement.
Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis passionné de la, on va dire, de la philosophie féministe, de la philosophie politique féministe en particulier, et qui à l'époque
était américaine.
Américaine, et plus particulièrement, je dirais, des écrits souvent des féministes lesbiennes radicales, mais que parfois, par exemple, mettons que c'était les écrits de Monique Wittig, qui m'ont totalement passionné à une époque, mais que j'ai lu en anglais. Je n'ai pas lu en français.
Aussi parce que sa réception n'était pas la même en France à ce moment-là.
Exactement. Elle était vraiment, on va dire, très lue. Elle était presque une star, en fait, aux États-Unis, alors qu'en France, elle était totalement inconnue. Donc, j'ai lu Monique Wittig, par exemple, en anglais. Et voilà, il a fallu beaucoup plus de temps, en fait, pour que j'arrive à la lire en français, par exemple, en fait. Même s'il y avait des textes, en fait, qu'elle avait écrits et véritablement en anglais. Donc, à chaque fois, il y a ces dérives,
en fait.
Ces détours, effectivement, ces trafics presque. En fait, des livres. Ouais.
Est-ce que vous cherchez quelque chose dans les livres aujourd'hui ?
Ah oui, moi je suis. En fait, je souffre des boulimies, en fait, lettrices, pour de vrai. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des moments, par exemple, où je vais avoir trois livres. Rarement, je vais lire un seul livre. Ça, c'est, il faut que ça soit vraiment. Que j'ai vraiment un coup de cœur, en fait. Et qu'il soit vraiment un rapport totalement passionné avec un livre. Sinon, je vais lire trois livres en même temps.
Mais vous cherchez quoi ?
Je cherche pas des. Ça dépend des moments. C'est vrai aussi qu'en tant que philosophe, parfois, en fait, je suis dans la recherche. Donc, je vais chercher, en fait, pour moi, un livre, c'est vraiment un territoire. C'est un lieu dans lequel, en fait, je cherche l'inconnu. Où je vais chercher peut-être beaucoup des informations historiques, parfois. Moi, je sais que beaucoup de gens, en fait, disent qu'ils cherchent des compagnons, des amis, etc. dans les livres, en fait.
C'est votre cas ?
Il y a des livres qui sont mes amis, mais je dirais pas ça de tous les livres non plus. Il y a plein de livres, en fait, dont, pour moi, là.
Vous dialoguez, vraiment... mais il n'y a pas d'amitié, quoi.
Exactement, il n'y a pas d'amitié. C'est vraiment comment ça va, etc. Tu vas bien ? Ouais, moi aussi. Mais...
Je prends de tes nouvelles,
exactement.
Mais on se dit à
exactement.
Tout à l'heure.
Exactement, il n'y a pas d'amitié. Mais souvent, oui, souvent, je vais lire, en fait, plusieurs livres en même temps. Que parfois ça m'arrive en fait de lire un livre de philosophie, un livre d'histoire et un livre de littérature en même moment, en trois langues différentes, et je passe d'une langue à l'autre, d'un livre à l'autre, en fait, c'est une solution de continuité. Donc vraiment, pour moi, c'est, et ça c'est quelque chose qui me passionne, effectivement, c'est
cette liberté là. Est-ce qu'il existe une photographie de vous, Paul B. Preciado, un livre à la main? Est-ce que vous avez une image comme ça de vous en tête qui aurait été du coup prise par quelqu'un d'autre?
Je crois pas. Franchement, je ne crois pas. Mais
ça veut dire que c'est quelque chose qui appartient à... c'est quelque chose qui n'est pas regardé chez vous.
Bah, c'est peut-être que je l'ai pas fait parce qu'en fait parfois je pense quand j'ai fait des photographies avec des photographes qui voulaient le faire comme ça.
Non, je parle plutôt de photos de la vie.
Des photos de quelqu'un.
Oui, des photos de la vie quotidienne.
De la vie quotidienne. Ouais, de la vie quotidienne, on en a plein. De la vie quotidienne, il y en a plein. Et notamment, je prends beaucoup, en fait, mon chien en photo en train de lire. Parce qu'en fait, comme on est très collé, souvent, en fait, il se retrouve, en fait, à regarder les livres que je suis en train de lire. Et donc, ça me fascine qu'on soit tous les deux, en fait, en train de regarder la même page. Et voilà. Des photos comme ça, en fait, avec mon livre en lecteur, enfin, mon chien en lecteur des livres, j'en ai plein.
Et la figure du chien arrive, d'ailleurs, à un moment donné, dans votre film Orlando.
Oui, tout à fait.
Biographie politique. Est-ce que vous pensez que vous avez rendez-vous avec une œuvre, un livre en particulier, l'œuvre d'une autrice ou d'un auteur, quelque chose qui vous attend ? C'est-à-dire que vous n'avez pas encore lu, mais vous sentez que ce sera bon pour vous dans 10 ans, dans 5 ans, dans 6 mois.
Oui, mais c'est souvent des livres qui ne sont pas écrits encore. C'est comme vraiment.
Vous les attendez, souvent, mais ils n'existent pas encore.
Oui, souvent je les attends.
Mais avec des contours précis ? Vous attendez quelque chose de précis ?
Oui. Ouais, je les attends en philosophie parce que c'est des livres parfois que je sais que j'écrirai pas, enfin je vais pas écrire parce que je suis dans un autre domaine, je n'ai pas les outils historiques, intellectuels qu'il faut pour les écrire.
Et vous aimeriez que quelqu'un d'autre le fasse.
Ouais, mais vraiment, j'attends et je sais que ça va arriver quelque part en fait.
Ça s'est déjà réalisé comme tel.
Souvent, par exemple, oui, souvent dans la. Évidemment, dans l'écriture féministe, en fait, que je suis beaucoup, quelque part, en fait, je me dis, bon, là, j'attends à quel moment il va avoir encore.
Et ça se passe.
Et ça se passe, ouais. Je sais, par exemple, on parlait tout à l'heure de Wittig. Bah, j'attendais depuis très longtemps, en fait, qu'il y a vraiment une biographie, par exemple, sur Monique Wittig. Bon, ça c'est, on va pas rentrer dans les détails. J'étais un peu déçu, mais c'est pas grave. C'est pas important. L'important, en fait, c'est que ça soit fait à un moment donné. Qu'il y ait encore plus de biographies, qu'il y ait encore plus de recherches, en fait. Parce que je sais que peut-être moi, je le ferai pas, mais j'y attends ces dialogues-là. La possibilité, en fait, qu'il y ait un livre ouvre, en fait, quand il est écrit. Parfois, c'est même pas exactement ce qu'il y a dans les livres lui-même, mais ce que les livres ouvrent, en fait, comme espace des débats politiques et des transformations sociales.
Et de nouveaux territoires, absolument. Puisque vous parlez beaucoup des choses en ces termes-là. Ouais. Comment est-ce que vous comprenez, puisqu'on va parler maintenant de votre film, Paul B. Preciado, cette expression, ce bout de phrase, souffrir du mal?
Ah ouais, ça me...
Mal en littérature, du mal de la littérature. C'est quoi la phrase exacte, d'ailleurs? Du mal de la littérature.
Du mal de la littérature. Ça, c'est une phrase exacte, en fait,
de
Virginia Woolf. Elle dit dans Orlando, qu'est Orlando, adolescent, et déjà, en fait, quand il est un peu dans la vingtaine, en fait, elle, souffre du mal de la littérature. Et je pense que souffrir du mal de la littérature, pour moi, c'est ne pas trouver dans la réalité quelque chose, en fait, qui pourrait permettre de réaliser votre vie pleinement, de la vivre telle que vous l'entendez, en fait, et des coups, être forcé à se dédoubler, en fait, à vivre une partie de sa vie en littérature. Et donc, pour moi, c'est vraiment, c'est l'appel de l'imagination politique, en fait.
Oui, mais quand vous en parlez, vous, que ce soit à propos d'Orlando ou quand vous êtes dans une pensée plus théorique, Paul B. Preciado, cette imagination politique, c'est une force. C'est quelque chose de très émancipateur, c'est un élan, c'est un mouvement. Vous dites beaucoup ces temps-ci que c'est par l'imagination politique que les grandes transformations arriveront, alors que là, il est question d'un mal, il est question de quelque chose qui ferait souffrir.
Ouais, mais on souffre. Et c'est ça qui est fascinant et que je pense que Virginia Woolf a compris très bien. Parce qu'elle-même, je pense qu'elle souffrait du mal de la littérature. Je pense que déjà, en fait, littéralement, parce qu'elle elle avait beaucoup de mal parfois à écrire ses livres, que par exemple, quand elle était alitée et qu'elle était en souffrance psychiatrique et traitée dans l'institution psychiatrique, bon, souvent, en fait, on l'interdisait d'écrire ou de lire. Et donc, du coup, elle souffrait, elle voulait lire. Elle disait, en fait, bah, voilà, j'ai pas pu lire pendant 2 semaines parce qu'ils m'ont enfermé dans une chambre dans laquelle je n'avais pas accès ni à un livre, ni à un stylo pour écrire. Donc, je pense qu'il y a chez elle, en fait, cette souffrance de la littérature. Et je pense que c'est à peu près la même chose. On pourrait dire, en fait, c'est un peu comme les pharmacons de Derrida. C'est-à-dire que la littérature est... Les poissons.
Son mal et son bien.
Et son bien, exactement.
Oui, c'est-à-dire que presque dans son « elle voulait lire », il y a « elle voulait vivre » et que ne pas réussir à lire, ne pas réussir à trouver quelque chose dans la vie pour soi. On va parler de votre film juste après ça.
Ça va. J'y vais.
Look, bitch, this little shit. Do you want to know what's in it? Your liberation.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
You're not the doctor's bitch. The categories are
fréquentait Orlando de Virginia Woolf, roman paru en 1928, imaginait qu'on peut y lire sa propre vie, mais s'enrager de ne pas la lire vraiment, c'est s'obliger à la poésie, à la reformulation, à l'invention de nouveaux corps, de nouveaux noms, de nouvelles images, de nouvelles solidarités, de nouveaux amours et de nouveaux combats. Mais c'est aussi descendre dans l'obscurité où manquent des portraits, où les morts n'ont pas de visage pour avoir été maltraités et invisibilisés. Vous écrivez une lettre film, Paul B. Preciado, où vous parlez autant à votre nom que vous écoutez parler les autres, des Orlando du 21e siècle, qui disent que les mots se dérobent parfois pour dire la personne qu'il, elle, aurait envie d'être. C'est un film qui dissèque la fabrique des images, qui parle de transition de genre en termes de voyage et opère les textes comme des corps sur la table. On continue d'en parler avec vous. Ce film est visible sur Arte ce soir en partenariat avec France Culture et sur la plateforme Arte quand on veut, quand on peut. La voix de Virginia Woolf, je voudrais qu'on commence par l'entendre. C'est une archive de 1937. Elle y parle des mots.
Perhaps that is our most striking peculiarity, their need of change. It is because the truth they try to catch is many-sided. Thus they mean one thing to one person, another thing to another person. They are unintelligible to one generation, plain as a pikestaff to the next. And it is because of this complexity, this power to mean different things to different people, that they survive, that we refuse to allow words their liberty. We pin them down to one meaning, their useful meaning, the meaning which makes us catch the train, the meaning which makes us pass the examination.
C'est peut-être la particularité la plus frappante des mots, leur besoin de changement. C'est parce que la vérité qu'ils essaient de saisir est multiple et qu'ils la transmettent en étant multiple, scintillant d'abord d'une façon, puis d'une autre. Ils signifient une chose pour une personne, une autre pour une autre personne. Ils sont inintelligibles pour une génération, clairs comme de l'eau de roche pour la suivante. Et c'est grâce à cette complexité, à ce pouvoir de signifier des choses différentes pour des personnes différentes qu'ils survivent. Nous refusons de laisser aux mots leur liberté. Nous les enfermons dans un sens, leur sens utile, celui qui nous permet de prendre le train, celui qui nous permet de réussir l'examen.
Bon, c'était trop tentant de commencer cette deuxième partie d'émission avec vous, Paul B. Preciado, par cette archive rare de 1937 que vient de traduire Oriane Delacroix. C'est une archive de la BBC. Virginia Woolf parle des mots et c'est tellement fou, peut-être pour parler du travail que vous avez fait, notamment en invitant non pas un, non pas deux, non pas trois Orlando, mais plusieurs et de générations différentes. Déjà, d'une part, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette voix ?
Bon, j'adore. Maintenant, c'est, on parlait tout à l'heure de l'amitié des livres, en fait. Et maintenant, c'est vrai que Virginia Woolf est devenue pour moi quelqu'un de très intime, en fait, que j'aime énormément. C'est vrai que je n'étais pas un lecteur vraiment de Virginia Woolf. Je connaissais vraiment avant de faire les films. Hein. C'est-à-dire que je connaissais évidemment l'Orlando, sinon je l'aurais pas fait. Et je connaissais d'autres écrits, mais un peu comme Une chambre à soi. Mm-hmm. J'avais lu Mrs. Dalloway, mais j'étais pas vraiment un passionné de Virginia Woolf. Et après, quand j'ai commencé à faire cette adaptation documentaire,
autre chose qu'une adaptation.
Mais... Ouais, tout à fait. Mais bon, moi je l'appelle
un
une documentaire. Parce que je pense que c'est ça, je pourrais vous expliquer en fait pourquoi je crois ça. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à faire cette adaptation, en fait, bah je me suis évidemment plongé dans toute l'œuvre de Virginia Woolf. Et comment c'était pendant le confinement, j'avais des moments où j'avais l'impression en fait qu'on était, elle et moi, à la maison. C'est-à-dire que j'avais l'impression de faire l'été pour elle. Et même quand j'ai commencé à tourner, j'avais mon petit hôtel et tous les jours, en fait, je lui disais, mais aide-moi, parce que pour trouver la forme juste... Et maintenant, ouais, elle m'accompagne un peu partout. Je l'adore maintenant. Et c'est vrai que cette archive, il est inclus, enfin, il est inclus dans les films. En fait, on l'entend, mais je pense que les spectateurs peut-être ne se rendent pas compte, en fait, que c'est Virginia Woolf. Mais c'est, quand Orlando est à Constantinople, en fait, et que juste avant, soi-disant, son changement de genre, de sexe, en fait, il se met à rêver des voyages, et là, il entend, la radio, en fait, et dans la radio, il y a Virginia Woolf, qui par ailleurs aimait beaucoup la radio. Elle se méfie énormément du cinéma, mais par contre, elle aimait beaucoup la radio, ouais.
Je pense que c'est aussi important d'entendre sa voix et de parler tout de suite de radio, parce que bah, la radio, c'est le mélange entre la voix et les mots, et qu'il y a quelque chose d'important dans la manière dont vous vous impliquez, Paul B. Preciado, dans cette adaptation documentaire d'Orlando, c'est par votre voix, par les mots que vous prononcez. Votre présence n'est pas une présence d'image, mais une présence de voix. Et je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs et d'auditoristes de radio qui, en entendant votre voix sans connaître votre nom, tout de suite connaissent votre nom. Elle est singulière, votre voix. Et donc, c'est aussi une façon singulière d'apparaître dans ce film-là. Mmh. Comment vous l'avez choisi ?
C'est vrai que j'ai compris, en fait, très rapidement que je voulais pas être...
À l'image ?
Ouais. J'ai beaucoup de mal, en fait, à être à l'image. D'autant plus que, comme c'est mon premier film, et j'ai commencé vraiment dans la pratique de filmer les autres, c'était complexe pour moi d'immédiatement me mettre en scène. Et honnêtement, je déteste être en scène, en fait. Par contre, c'est vrai que moi-même, j'entends énormément les voix des autres. Je prête beaucoup d'attention aux voix. Que la voix est quelque chose de fascinant qu'on en devient trans ou non-binaire. Parce que c'est une des choses qui change le plus. Et qu'il faut s'habituer, en fait, à une nouvelle voix. Ça m'est arrivé très souvent, par exemple, en fait, au tout début de ma transition, par exemple, d'appeler un ami, d'appeler ma mère, etc., et que la personne dise, en fait, mais qui est au téléphone, et qui est d'être vraiment non reconnu, en fait, par la voix. Cette étrangeté-là, mais que c'est quelque chose qui me fascine, en fait, et que j'ai dû aussi apprivoiser avec les temps. Maintenant, effectivement, j'écoute ma voix comme si c'était la voix de quelqu'un d'autre.
Ce qui est déjà le cas, on va dire.
Absolument.
C'est-à-dire que, y compris dans des parcours où il n'y a pas de transition de genre, on écoute toujours un peu sa voix comme la voix de quelqu'un d'autre. Et ce qui est assez beau, c'est ce que vous racontez ou ce dont vous témoignez de l'augmentation de ce sentiment d'étrangeté à soi-même.
Ouais. Et aussi, c'est quelque chose, en fait, que je voulais faire entendre dans les films. C'est pour ça que, très rapidement, en fait, j'ai eu envie de faire cette biographie de manière collective, en fait, parce que je savais que, c'est pour ça, pour revenir à la question pourquoi c'est une adaptation documentaire, parce qu'effectivement, effectivement, si on veut faire une adaptation d'une œuvre romanesque, on se dirait, ben voilà, on va prendre un acteur, une actrice pour jouer les rôles principaux. Mais si les personnages principaux du livre existent et il est encore vivant aujourd'hui, il faut plutôt aller à sa rencontre. Et c'est ça, c'est mon intuition fondamentale quand j'ai eu cette idée totalement folle, en fait, et délirante, quelque part, de vouloir faire ces films, en fait. C'était que moi-même, j'étais peut-être en fait un Orlando de Virginia Woolf, que Virginia Woolf, malheureusement, elle a été morte en fait, mais que son Orlando était vivant et plus vivant que jamais, et qu'en plus n'était pas une figure singulière, mais qui était vraiment une multiplicité.
Figure plurielle.
Voilà.
D'autant plus que cela rejoignait sa propre intuition à elle, puisque c'est pas une biographie qui pourrait, on va dire, suivre le seul temps d'une existence. C'est beaucoup plus vaste. Ça s'étale sur des dizaines et des dizaines et des centaines d'années. Et donc, on peut considérer que à mener l'Orlando jusqu'au XXIe siècle, c'est simplement faire un tout petit pas de plus que les grands pas qu'elle fait dans ce texte-là.
Totalement. C'est une des choses qui m'a fasciné, que je me suis dit, en fait, qui m'a donné la possibilité, justement, de faire ces films. Parce qu'effectivement, son livre, il commence en 1600. Orlando est un adolescent, un garçon, soi-disant. Et à la fin du livre, en fait, on est en 1928. Orlando, elle a changé de sexe, c'est une femme. Elle a la trentaine, elle est vivante. Et ce qui est quand même quelque chose d'assez magnifique. Pas simplement parce que Virginia Woolf a eu cette idée, en fait, de changement de genre, de sexe.
Mais le
en
temps.
Fait. Mais effectivement.
L'étirement du temps, la dinguerie de cet étirement.
Absolument. Et aussi le fait que Virginia Woolf a décidé de ne pas tuer son personnage à la fin. Et ce qui est quand même très rare, puisque, en fait, quand il y a eu des personnages trans dans des films ou dans des romans, en fait, souvent sont évidemment mis à mort à la fin du livre. Et là, ce qui est quelque chose qui m'est fasciné en plus, parce qu'en fait, peut-être les auditeurs ne savent pas, c'est que, ou peut-être oui, c'est que Virginia Woolf, en fait, elle avait sa propre maison d'édition, parce qu'évidemment, qui aurait pu publié en fait à l'époque l'Orlando de Virginia Woolf. Il faut savoir que la famille des Vita s'est rapidement opposée.
Donc on peut dire très rapidement qui est Vita et pourquoi est-ce que c'est une figure importante dans la constellation de ce livre-là, Paul B. Preciado.
Vita, en fait, c'est une aristocrate qui, à l'époque, est vraiment une écrivaine très connue, d'ailleurs beaucoup plus connue que Virginia Woolf à l'époque, qui est une femme mariée mais qui a beaucoup d'aventures lesbiennes. Et à un moment donné, en fait, Virginia Woolf va tomber follement amoureuse de Vita. Mais Vita est très mondaine, en fait, a plein d'amants et va briser totalement les cœurs, en fait, de Virginia Woolf.
Qui lui dédicace néanmoins son livre.
Mais il faut savoir qu'en fait, les livres de Virginia Woolf est vraiment une lettre d'amour, mais un peu empoisonnée, parce qu'en fait elle est évidemment très ironique aussi, et qu'imaginez en fait qu'est-ce que ça veut dire à l'époque, en 1928, en fait, d'être représenté dans un livre, en fait, comme quelqu'un qui change de sexe. Et effectivement, il faut savoir qu'à l'époque, par exemple, Vita avait vraiment une moustache qui était assez visible, franchement. C'est étonnant, si vous regardez les photographies, en fait, de Vita, qui était une femme, en fait, qui s'habillait souvent en homme, et qui jouait, en fait, de ces multiplicité des caractères aussi, et aussi peut-être en fait quelque part de la séduction masculine, en fait. Et donc du coup, Virginia Woolf va mettre en scène la masculinité des Vita des manières totalement parfois hyperboliques.
Oui, il est question d'une farce, elle parle d'une farce d'une certaine manière, mais je reviens sur vos intuitions de départ à partir de ce texte de 1928, Paul B. Preciado, au début du film. Vous parlez de la propre question qui vous est adressée, une demande d'écrire votre biographie. Il se trouve que Virginia Woolf est quelqu'un qui écrivait aussi de la théorie et de la théorie littéraire et qui s'interrogeait sur ce que c'est qu'une biographie. Qu'est-ce que c'est qu'écrire une vie? À quoi ça répond? Et vous, vous dites, peut-être Orlando, c'est la biographie que Virginia Woolf a écrite de ma vie. Mais ça va pas. Ou ça va pas tout à fait. Et c'est dans ce pas tout à fait que vous vous engouffrez pour produire quelque chose, pour produire plus de vibrations, plus de complexité, etc. Est-ce que ce geste-là, à la fin, une fois que l'adaptation documentaire de Orlando, il est satisfaisant. Est-ce qu'il a produit la biographie de Paul B. Preciado? Ou est-ce que cette intuition de départ, elle a été pulvérisée par le résultat du film?
En fait, non, je suis assez... Je pense en fait que faire un film, en fait, c'est une expérience... C'est une expérience collective très complexe, en fait, qui est très différente de celle d'écrire un livre. Et qu'effectivement, l'intuition que j'avais au départ, et quand même, c'est une intuition quelque part philosophique, en fait, c'est-à-dire que ma biographie était écrite avant de ma naissance. Parce qu'il y a, mais je pense en fait que c'est peut-être le cas pour chacun d'entre nous. C'est peut-être que...
Pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs.
Pour le meilleur ou pour le pire. Et qu'il y a vraiment des textes, en fait, historiques, qui sont fondateurs des récits, en fait, que nous allons
performer
tout au long de notre vie. Après, ce qui va arriver peut-être, en fait, c'est que nous allons, en fait, peut-être dériver, en fait, en tant que personnage. C'est-à-dire que on pourrait peut-être, en fait, si nous avons un peu de chance, échapper, en fait, nous émanciper peut-être du chemin de personnage et sortir de cette fiction. Et je pense que c'est certainement ça qui arrive, en fait, avec Orlando. Et en fait, le fait d'avoir décidé, en fait, de faire cette biographie, pas uniquement comme la mienne, mais aussi comme d'une part une biographie, je dirais, comme une espèce de généalogie politique, en fait, qui inclut aussi des personnes trans et non-binaires qui étaient là avant moi et celles qui vont venir après, mais aussi, en fait, les 26 Orlando, en fait, qui m'accompagnent dans cette aventure, des personnes trans et non-binaires entre 78 et 8 ans. Ça fait effectivement que je suis totalement mais bouleversé, en fait, dépassé, parfois émerveillé, en fait, parce que quelque part, en fait, quand je vois leur biographie qui est un peu la mienne aussi,
mais pas tout à fait,
je me dis aussi que c'est dans cette vibration, en fait, dans cette fluctuation, dans cette distance, en fait, qu'une biographie s'est construite.
Tu me raconterais l'histoire d'Orlando de Virginia Woolf?
Orlando, c'est un jeune garçon, un adolescent. Et ça finit, et en fait, c'est une femme qui a la trentaine. Cette personne change de corps en plein milieu du livre.
Ah ouais?
En plus, on sait pas combien de temps vraiment cette personne va vivre, parce qu'on traverse déjà plusieurs siècles, en fait, au cours du livre, alors que Orlando n'a que 30 ans. En fait, apparemment, c'est inspiré d'une personne qui a réellement existé.
Ah, ok.
Ouais. C'est la copine de la meuf qui l'a écrit, je crois.
tout un peu le visage là, s'il te plaît.
T'es un peu à Orlando, toi.
Ouais, grave. Toi aussi, en vrai. On a tous un côté Orlando en nous, je crois.
J'aime sentir, sous la fuite légère de l'été, les vertèbres de la terre. Je m'y accote, car la dure racine du chêne est cela. Elle est encore le dos d'un grand cheval que je monte,
ou le pont d'un bateau penché. Elle est à vrai dire n'importe quoi de dur. Car je sens le besoin d'une chose à laquelle amarrer mon cœur indécis. Ce cœur qui bat dans nos flancs. Ce cœur
rempli de tourments. Chargé d'épices et de langueur. Tous les soirs, à 7 heures. À chacune de ces promenades. C'est aux chaînes que je le fixe.
Tandis que je demeure, là. Couché. Peu à peu, les palpitations intérieures ou environnantes s'apaisent. Les petites feuilles demeurent suspendues. Le temps s'arrête.
Les pâles nuages d'été s'immobilisent.
Mes membres se déposent sur le sol. Et je demeure couché dans une telle quiétude que pas à pas, le temps s'approche. Les freux tourbillonnent sur ma tête. Les hirondelles plongent et virent.
Le vol des temps rompit.
Comme si toute la fertilité et l'activité amoureuse d'un soir d'été tissaient leur toile autour de mon corps.
On a commencé par parler avec vous, Paul Bepreciado, de l'importance des voix. On entend comment vous l'avez traité, cette pluralité. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont des Orlando qui se racontent l'histoire d'Orlando. Et puis dans ce chant, il y a vraiment l'idée d'un cœur des Orlando. Quel rapport vous avez eu avec le texte littéral? Je dis qu'il s'agit de la traduction de Charles Moron.
En fait, les textes... Évidemment, c'est devenu très très important parce que je suis rentré totalement dedans. Et je commençais... Je me suis donné que peut-être en fait la liberté était, c'était pas totalement simple parce qu'évidemment Virginia Woolf c'est un monstre littéraire et donc c'est presque un monument ces textes donc à un moment donné il fallait que j'arrive à les désacraliser, mm-hmm. à changer certaines choses, notamment par exemple en fait à passer les textes de la troisième personne à la première personne. Ça change tout, parce que c'est plus du tout en fait Virginia Woolf qui parle d'Orlando.
C'est Orlando qui parle.
Voilà, c'est Orlando qui parle lui-même. Et ça, j'ai commencé en fait à sentir la puissance de ces gestes quand j'ai fait un casting en fait pour appeler, pour rencontrer les Orlando d'aujourd'hui. Et du coup, en fait, il y a eu plein d'Orlando qui se sont présentés à ces castings, en fait, presque une centaine, donc c'était quand même une folie. Et en fait, à chaque fois, il y avait des Orlando qui arrivaient, j'avais demandé aux Orlando de choisir un paragraphe du livre, en fait, et de les lire. Et donc, les gens arrivaient et disaient, mais attends, mais moi, je suis Orlando. Et donc, effectivement, c'était déjà, en fait, vraiment un déplacement performatif important. Parce que c'était pas du tout, en fait, Orlando fait ci, fait ça, mais moi, je suis Orlando. Et c'est mon histoire et c'est ça qui m'arrive. Et donc, j'ai commencé par cet déplacement, en fait, à la première personne. Après, j'ai décidé, en fait, plus ou moins, quelle scène, en fait, je voulais...
En fonction de quoi?
En fonction, parfois, par exemple, des critères qui sont, en fait, assez matériels, puisque le cinéma, c'est une industrie, une pratique, et que très rapidement, par exemple, je voulais tourner certaines scènes, celle du dessert, celle de la mer, etc., qui étaient très importantes. Mais évidemment, j'avais pas du tout les budgets pour le faire. Après, en fait, dans les films, en fait, je construis des décors, en fait, très, assez précaires, en fait. Et finalement, bon, je me dis que c'était un choix intéressant aussi, quelque part, parce que il y a quelque chose de la fragilité, de la vulnérabilité, de la précarité de la vie trans, en fait.
Bien sûr. Moi, je trouve qu'il y a un des aspects les plus intéressants de cette adaptation documentaire, c'est le petit à petit, l'espèce de mise en place métaphorique entre la fabrique de l'image cinématographique. Alors, on est dans un grand hangar avec un décor de montagne, il neige, avec de la fausse neige, évidemment. Enfin, comment tout ça est fragile, comment ça est fait de petites choses, mais comment on peut quand même arriver à une image magnifique. Et puis, tout ce que ces êtres-là, Orlando du XXIe siècle, nous disent de la fabrication de leur propre image.
Exactement.
Et que petit à petit, le cinéma et la transformation des êtres, j'ai envie de dire la transformation même générale en fait, des êtres,
ouais,
se confondent.
Tout à fait. C'est exactement pour ça que je voulais montrer en fait les films en train de se faire. Je voulais montrer les dispositifs cinématographiques parce que c'est vrai que quand on voit un film, en fait, ce qu'on voit, c'est une trace en tant qu'image qui est vraiment, qui représente peut-être un 5%, un 5%
du
processus
parcours.
Total.
Et ça nous, je trouve que ça fait toujours parler, Paul Preciado, de ce que vous racontez toujours du voyage, c'est-à-dire la transition, en l'occurrence, de genre, est un déplacement, c'est long, c'est un changement de territoire, et c'est ce que vous montrez par la fabrique du cinéma.
Mais aussi, en fait, je dirais, tout court, pour les genres, la masculinité et la féminité qu'on perçoit souvent comme naturelles, en réalité, elles apparaissent comme naturelles grâce à tout un dispositif technique, sociale et politique, en fait, qui nous permet de finalement dire c'est une fille, c'est un garçon. Et donc, en montrant vraiment ces dispositifs, en fait, je voulais aussi que les spectateurs arrivent à comprendre, en fait, ces dimensions socialement construites, en fait, du genre. Mais c'est vrai que travailler avec les textes de Virginia Woolf, c'était incroyable parce qu'à un moment donné, par exemple, en fait, j'ai commencé à faire des entretiens très longs avec les participants et participantes, en fait, avec les Orlando. Et on a cherché les parties de leur vie qui pourraient, en fait, plus ou moins faire écho avec certains passages du livre. Et je pense que vous les voyez dans les films, en fait, il y a des moments qui sont assez incroyables, en fait, comme par exemple, en fait, Ruben, c'est un garçon adolescent que j'ai rencontré quand il avait 12 ans, qui était en train de vivre sa première histoire d'amour. Et en fait, j'ai tourné exactement à peu près la même scène, c'est-à-dire les moments où, dans les livres de Virginia Woolf, Orlando tombe amoureux aussi d'une personne qui s'appelle Sacha, et ce qui était complètement par hasard, en fait, c'était exactement les mêmes noms. Et ce que je fais à chaque fois, en fait, c'est... si vous voulez, on a travaillé les textes de Virginia Woolf, les Orlando ont appris des passages exacts des textes de Virginia Woolf, qui après ont mélangé en fait à leur propre récit des transitions.
Exactement. Et dans un phénomène de transition dans la parole, je voudrais qu'on écoute ce glissement là. On s'intéresse encore aux voix. C'est le témoignage de Amir.
J'ai grandi seulement avec ma mère qui est française et mon père est rwandais. Et donc j'avais pas contact tout de suite avec l'autre partie de ma famille avant je pense mes 17-18 ans. Donc ils m'ont quand même connu avant ma transition. Mais quand j'ai dû leur annoncer ce que j'allais entreprendre, finalement ils l'ont très bien pris. Et je pense que c'est quelque chose qui surprend beaucoup en général, parce qu'on imagine souvent les familles africaines ou non occidentales comme étant plus fermées d'esprit quand il s'agit de questions de genre et de sexualité. Mais en réalité, c'est pas le cas. Je pense que ça reste un stéréotype et que ça dépend des personnes. J'ai quand même commencé assez jeune, parce que là, j'ai 23 ans, donc j'ai commencé à 20 ans. Et pour moi, c'était pas vraiment une rupture non plus avec qui j'étais avant. C'était plutôt vraiment une continuité de qui je suis et de qui j'allais devenir. Les gens s'amusent à raconter des rumeurs sur moi. L'autre jour, des bergers amenant des chèvres au marché ont dit qu'ils m'avaient vu prier au sommet d'une montagne. Mais en réalité, je récitais juste un poème à voix haute. Parce que j'aime fredonner quand je suis seul. Je suis devenu l'idole de nombreuses femmes et de certains hommes. Certains tombent amoureux sans jamais m'avoir parlé, ni même vu. Et lorsqu'ils pensent à moi, ils imaginent seulement un noble gentleman en bas de soie, devant un coucher de soleil dans la ville de Constantinople. Mais en réalité, j'ai passé la plupart de mon temps seul.
Souvent, vous évoquez, Paul B. Preciado, en tout cas dans vos derniers textes, la dimension de la tendresse, de la douceur, en plus de cette idée de la puissance de l'imaginaire. Et on entend là, dans le témoignage et la voix d'Amir, qu'il y a un glissement qui est presque tendre, justement, qui est presque doux, de la parole où il dit sa vie, entre guillemets, sa vie réelle, à la parole où il dit autrement sa vie, mais en passant par la fiction et en passant par le texte de Virginia Woolf.
Oui, en fait, je voulais aussi faire entendre la dimension poétique de la révolution que nous vivons. Parce qu'en fait, le problème, c'est que parfois, quand on parle, par exemple, des questions du genre, de sexualité, on a l'impression, en fait, qu'il s'agit, en fait, de marteler des slogans politiques, en fait, ou des idéologies quelconques, en fait. Alors que cette cette transition de genre est un voyage pas uniquement politique, mais aussi très, très poétique, en fait. Que par exemple, les changements des noms, c'est quelque chose de, d'une beauté inouïe. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous changez des noms, vous les faites, en fait, grâce au fait et à condition du fait que les autres, à un moment donné, vont vous appeler par les noms que vous avez choisis. Et ces moments-là est un moment, en fait, constitutif. C'est un moment qui n'est pas uniquement politique, mais un moment poétique, véritablement poétique. Parce qu'en fait, c'est comme si, en fait, toute la réalité autour de vous se métamorphose, en fait, et vous commencez à écouter les mots autrement.
Mais c'est dire aussi la puissance des mots. Je pense à un de vos Orlando qui dit qu'il n'a pas d'autre possibilité que d'être, qui elle n'a pas d'autre possibilité que d'être poétique, et que en fait c'est parce que ça chope, c'est parce qu'il n'y a pas de mots assez grands ou assez scintillants, pour reprendre l'archive de 1937, que la position poétique est une position nécessaire.
Totalement, c'est pour ça que par exemple quand j'ai rencontré les enfants, les Orlando enfants qui participent au film, en fait, je me suis dit que c'était des poètes du genre. Parce qu'en fait, c'est des enfants qui essayent d'inventer un lieu, une position de dénonciation et des paroles dans le monde qui n'existait pas. Donc, des coups, en fait, parfois on les retrouve face aux institutions, c'est-à-dire face à l'école, face à la famille, face évidemment à la psychiatrie, à la médecine. Et d'un côté, en fait, vous écoutez la norme, la loi, et d'autre côté, de l'autre côté, vous écoutez en fait la parole poétique vivante, en fait. Exactement la même chose que disait Virginia Woolf. Maintenant, tout à l'heure, en fait, j'ai l'impression qu'elle était là avec nous. En fait, c'est-à-dire que le langage est vivant. Et quand j'entends, en fait, par exemple, évidemment, les refus du gouvernement actuel, en fait, d'accepter les langages inclusifs ou les langages non-binaires, en fait. Mais c'est une folie totale, puisqu'en fait, ça montre bien que la langue est vivante et que les mots sont en train de nous transporter ailleurs. En fait. Donc nous avons besoin de cette plasticité, de cette poésie en fait.
D'ailleurs vous racontez bien, ou en tout cas vous montrez bien, Paul B. Preciado, avec ce film, que les corps ne sont jamais que des corps organiques, que sont aussi des tissus de texte, et que quand on opère des corps, on opère les narrations qui constituent l'organique de ces corps-là, et inversement, les textes ne sont pas que des textes, ce ne sont pas que du papier, et on peut aussi les opérer. Vous poussez cela jusqu'à opérer le texte, et il y a, je crois, un plan très beau où il y a une sorte de chant comme ça, qui est un chant de... Comment on dit pour tenir au-delà des microbes, je ne sais pas, le chant...
Ouais, en fait, chirurgical.
Voilà. Et au scalpel, vous enlevez juste quelques mots, vous déplacez notamment la violence, vous opérez dans la fiction, à même la fiction, et c'est le pont qu'on peut faire le plus clair jusqu'à votre pensée théorique, qui est aussi présente, mais elle est présente par des actes comme ça de cinéma, quoi.
Bah oui, c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, il y a eu envie de détourner cette scène qui était effectivement opérée, enfin comme ça on dévoile un tout petit peu le film, mais c'était vraiment opérer l'Orlando de Virginia Woolf, parce que les personnes trans, mais je dirais en fait toute personne, parce que tout bébé qui vient au monde en fait passe par un diagnostic clinique en fait qui va finalement amener jusqu'à l'assignation du genre. Donc, des coups, en fait, il faut savoir que les genres est toujours produit, en fait, dans un contexte des représentations cliniques et médicales. Et donc, j'avais très, très envie, à un moment donné, de mettre sur la table d'opération l'Orlando de Virginia Woolf, en fait, cette fiction qui nous a permis de nous construire et de nous déconstruire, peut-être, en fait. Nous avons cherché un bloc opératoire et c'était fascinant parce qu'en fait...
Un champ stérile, c'est ça le mot que je cherchais.
C'est ça. C'était pas chirurgical, c'était stérile. Et donc, des coups, en fait, c'est vrai que c'était fascinant parce qu'il y avait une infirmière qui travaillait avec nous pour, en fait, que les plans soient exactement, vraiment, comme une vraie opération, etc. Et on était dans un vrai bloc opératoire et à côté, quelqu'un était en train de se faire opérer d'une appendicite et en fait, l'infirmière faisait l'aller-retour entre l'un et l'autre. Et je pense
entre opérer un texte et opérer un corps.
Exactement. Mais je pense en fait que c'est comme ça que peut-être en fait nos corps sont faits de fiction et que la fiction est vivante. La fiction en fait peut nous donner en fait la possibilité de vivre, notamment en fait tous les documents administratifs qui sont vraiment des textes de fiction, mais aussi les documents des lois, les documents psychiatriques, médicaux, etc. Donc il y a tout un domaine en fait de la fiction politique qu'il faut opérer collectivement.
Ça va être beaucoup trop court pour la question énorme que je vais vous poser là, Paul B. Preciado, mais on l'a dit, la manière d'énoncer les choses est différente quand vous écrivez de la philosophie ou quand vous produisez un film. Qu'est-ce que ça a changé ?
Bon, est-ce que ça a changé de manière très, très rapide ? En fait, c'est vraiment la multiplicité des voix. En fait, c'est me sentir entouré par une multiplicité des voix qui ne sont pas la mienne. Et donc, du coup, aussi, découvrir cette richesse et cette beauté, c'est vraiment un exercice que j'ai totalement adoré. Même si pour moi, personnellement, je sens, pour moi, les cinémas, c'est de la pensée. C'est de la pensée et une image. Je ne vois pas de différence, par exemple, entre mes livres et les films. Pour moi, c'est exactement la même chose. Mais la différence, effectivement, c'est qu'il y a la possibilité, en fait, d'inclure à l'intérieur la beauté, la générosité de cette multiplicité des voix qui m'ont accompagné pour le film.
Orlando, ma biographie politique, c'est visible ce soir sur Arte à 23h en partenariat avec France Culture et jusqu'au 4 mars 2024, anytime, comme on dit, sur la plateforme Arte. Merci beaucoup, Paul.
Merci, merci à vous.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il est toujours 15h50 sur France Culture et à cette heure-ci, le mercredi, nous avons rendez-vous avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour.
Bonjour Marie.
Vous nous parlez un peu de littérature pour les plus jeunes d'entre nous. Aujourd'hui, il s'agit d'un album pour enfants qui fait se rencontrer l'absurde et la littérature jeunesse.
Absolument Marie, aujourd'hui je vous parle d'un album signé par un auteur qui s'appelle Sergio Ruzier, je le prononce à la française, Ruzier peut-être, je sais pas. C'est un auteur italien qui a longtemps vécu et travaillé à New York, à la fois comme auteur d'histoire illustrée et aussi comme dessinateur pour des magazines de presse. L'album est le deuxième tome des aventures de Poussin et Renard, il a paru en français il y a quelques semaines aux éditions La Joie de lire. Poussin et Renard, c'est une série de courtes histoires racontées en bande dessinée qui mettent en scène un duo composé d'un poussin Candide, qui aime poser des questions étranges et profondes à son camarade Renard, personnalité plus sereine. Poussin et Renard, c'est le théâtre de l'absurde qui fait son entrée dans l'univers de l'album jeunesse. C'est Vladimir Estragon qui aurait rencontré Snoopy et Charlie Brown. C'est aussi une initiation à la philosophie et à la grammaire de la bande dessinée.
C'est un sacré programme. Concrètement, comment ça se passe, Mathilde ? Qu'est-ce qu'elle raconte, ces petites histoires ?
Alors, il faut d'abord préciser que les deux camarades évoluent dans un univers complètement abstrait. Si j'ai tout de suite pensé à Beckett, plus précisément en attendant Godot donc, c'est d'abord en raison des décors. Poussin et Renard circulent dans une sorte de vaste plaine sur laquelle trône simplement parfois la maison quasi vide de Renard ou un arbre dégarni, tout au plus une colline. Les situations explorées font parfois allusion à des expériences concrètes, ainsi lorsque Poussin s'invite à une soirée pyjama chez Renard ou lui réclame l'organisation d'un anniversaire surprise. Mais la plupart du temps, le point de départ est lui aussi tout à fait abstrait. L'histoire la plus éloquente à ce titre s'appelle Le marteau. On y découvre Poussin tombé par hasard sur un marteau posé sur la branche d'un arbre. Ravi, il va trouver son ami. « Renard, j'ai enfin retrouvé mon marteau !» Puis l'oiseau marque une pause et regarde l'objet d'un air circonspect. « Renard, que fait-on avec un marteau ?»« Avec un marteau, tu peux planter un clou dans un mur. » Le poussin va chercher un clou, veut le planter sur un grand mur de briques qui a entre-temps fait son apparition dans le décor, mais réalise qu'il a perdu son marteau. Renard suggère qu'il utilise à la place un caillou. Poussin s'exécute, contemple fièrement son clou planté dans son mur avant de marquer une nouvelle pause. Que fait-on avec un clou dans un mur, Renard ? Tu peux suspendre quelque chose, un tableau peut-être ? Poussin se met au travail et peint une image d'abord dérobée à notre regard. On la découvre pour finir sur une double page. Poussin, sur son tableau, a peint un marteau. Il interroge à nouveau. « Mon marteau me manque, Renard. Que fait-on avec l'image d'un marteau ?» Et le Renard de conclure simplement « Tu le regardes quand tu t'ennuies de lui. » Ou comment, en l'espace d'une toute petite scénette, proposer une méditation sur la vanité de l'existence et les pouvoirs de la représentation. C'est l'un des sens que l'on peut donner au terme d'absurde, ce dont l'existence est gratuite, non déterminée par une fin. Comme le clou sans marteau, Poussin erre dans un univers dont il a perdu le mode d'emploi, et le comique, le plus souvent, naît de là.
Alors en plus d'être presque une sorte de bande dessinée philosophique, c'est d'abord quelque chose qui peut initier à la grammaire de la bande dessinée, Mathilde.
Absolument, et la deuxième référence qui m'est venue en tête en lisant cet album, ce sont les fameux Peanuts, cette série de comic strips dessinée entre 1950 et 2000 par Charles M. Schulz, et qui mettait notamment en scène les personnages du chien Snoopy et du petit garçon Charlie Brown. Là aussi, le comique procédait l'air de rien d'une forme de méditation sur l'existence. Mais si j'ai fait cette association, c'est aussi pour des raisons graphiques. D'abord, d'ailleurs parce que le personnage de Poussin, dessiné en quelques traits simples, m'a un peu fait penser à Woodstock, le petit oiseau des Peanuts, mais aussi pour l'utilisation du format des cases. Comic strip, hein, vous le savez, en anglais, c'est un terme qui désigne littéralement le bandeau dessiné, et c'est un terme qui est lié au contexte d'apparition des premières bandes dessinées aux États-Unis dans la presse quotidienne à la fin du 19e siècle. Il renvoyait alors à une courte série de cases dans lesquelles l'histoire devait être condensée. On retrouve cette économie dans le travail de Sergio Rosier. Dans Le Marteau, par exemple, l'effet comique suscité par l'apparition du mur en briques est souligné par le fait qu'il prend soudain l'espace d'une demi-page entière dans la verticalité, le Poussin se retrouvant minuscule face à lui.
Pour conclure, Mathilde, vous vouliez évoquer une dernière histoire de cet album.
Ouais, Marie, je résiste pas pour conclure au plaisir de vous raconter la toute dernière histoire de cet album que l'on croirait écrite pour cette émission. Renard y offre un livre à Poussin, cadeau qui n'a pas l'air de réjouir beaucoup le petit oiseau. Ce n'est pas que je n'aime pas les livres, Renard, mais c'est le premier que je possède et je ne sais pas où le mettre.
Bah oui.
Renard lui suggère de construire une bibliothèque. L'oiseau fabrique d'abord un assemblage d'étagères qui ne permettent d'accueillir qu'un seul livre. Renard lui indique que c'est embêtant. Le Poussin construit alors une immense bibliothèque bancale qui pourra abriter bien d'autres ouvrages et conclut, stoïque et heureux, « J'aime ce livre, Renard, je pourrais même le lire un jour. »
Parce que ça peut servir à ça.
Ça peut aussi servir à ça.
On rappelle le titre de ce livre-là que je vais mettre dans ma bibliothèque à unique livre.
Ça s'appelle « Poussin et Renard », le tome 1 et le tome 2 sont disponibles aux éditions La Joie de lire.
Merci Mathilde. Lecture jeunesse sur franceculture.fr. Il est encore l'heure de jouer, c'est le grand jeu des pages musicales à cette heure-ci dans votre book club sur France Culture. Je rappelle le principe, vous êtes en train de lire, et j'espère que vous allez jouer Paul B. Preciado, à n'importe quel moment, vous rencontrez l'évocation d'un air musical et vous nous l'envoyez ou bien via l'Instagram du book club de France Culture ou bien @lebookclub@radiofrance.com. Aujourd'hui, notre auditrice s'appelle Judith, elle nous a envoyé un extrait d'un livre qui s'appelle « Ça fera des souvenirs », c'est un livre de Noé Margolis paru en 2023 chez Michalon, et il s'y raconte une adolescence dans les années 90. C'est drôle d'être là, dans le cimetière du Père Lachaise avec des adultes, pour une vraie raison de cimetière. D'habitude, Darius s'y rend la nuit avec des bières et des potes, hanté par la réminiscence de Camille, qui lisait « J'irai cracher sur vos tombes ». Il zone régulièrement avec quelques amis dans les cimetières parisiens. Il fume des joints en écoutant les Doors, Nine Inch Nails ou Metallica. La puissance de leurs émotions les pousse à creuser une identité qui colle à ce qu'ils traversent. Quelque chose de noir, de brutal. Le back album de Metallica surgit comme un écho à leur ressenti, une plongée dans leur magma intérieur. Le rythme est plus appuyé, parfois ralenti, transformant la nervosité en puissance compacte et sensuelle. Au son, c'était Nicolas Bonnet, à la réalisation Félicie Faugère. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Léa Weissgruss, Mathilde Wagman, Jeanne Aléos, Didier Pinault et Alexandre Alaï-Begovic. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr et pourquoi pas vous abonner au podcast du Book Club via l'application Radio France. Très bel après-midi sur France Culture.